Les marchandes de sable, fable de La Fontaine. Le lion et l'âne chassant. Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer. Il célébrait sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, mais beaux et bons sangliers, daims et cerfs bons et beaux. Pour réussir dans cette affaire, il se servit du ministère de l'âne à la voix de Stentor. L'âne à messer lion fit office de corps. Le lion le posta, le couvrit de ramée. Lui commanda de braire, assuré qu'à ce son les moins intimidés fuiraient de leur maison. Leur troupe n'était pas encore accoutumée à la tempête de sa voix. L'air en retentissait d'un bruit épouvantable. La frayeur saisissait les hôtes de ces bois. Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable où les attendait le lion. « N'ai-je pas bien servi dans cette occasion ?» dit l'âne, en se donnant tout l'honneur de la chasse. « Oui, reprit le lion, c'est bravement crié. Si je ne connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayé. » L'âne, s'il eût osé, se fit mis en colère, encore qu'on le raillait avec juste raison. Car qui pourrait souffrir un âne fanfaron ? Ce n'est pas là leur caractère. Testament expliqué par Ésope. Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'aréopage. En voici pour essayer une histoire des plus gentilles et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait trois filles, toutes trois de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la troisième avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portions égales, en donnant à leur mère tant, payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les trois femelles courent au testament sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur. Mais en vain, car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possédera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère. Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père ? L'affaire est consultée, et tous les avocats, après avoir tourné le cas en 100 et 100 000 manières, y jettent leur bonnet, se confessent vaincus, et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici, leur dit-il, ce que le conseil treuve. Il faut que chaque sœur se charge par traité du tiers, payable à volontiers. Si mieux n'aime la mère en créer une rente, dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa trois lots. Et l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de malvoisie, les esclaves de bouche et, pour dire en deux mots, l'attirail de la goinfrerie. Dans un autre, celui de la coquetterie, la maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses, et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le troisième lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. Ces lots faits, on jugea que le sort pourrait faire que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi, chacune prit son inclination. Le tout à l'estimation, ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva le partage et le choix. Ésope seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. « Si le défunt vivait, disait-il, que l'Attique aurait de reproches de lui ? Comment ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si mal entendu la volonté suprême d'un testateur ?» Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui pût être convenable. Partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette, l'attirail qui suit les personnes buveuses. La biberonne eut le bétail, la ménagère eut les coiffeuses. Telle fut la vie du Phrygien, allégeant qu'il n'était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leurs biens. Qu'elles se marieraient dans les bonnes familles quand on leur verrait de l'argent. Père et leur mère, tout contents, ne posséderaient plus les effets de leur père, ce que disait le testament. Le peuple s'étonna comme il se pouvait faire qu'un homme seul eut plus de sens qu'une multitude de gens. Le meunier, son fils et l'âne, à Monsieur de Maucroix. L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours, nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois, Aracan à l'herbe l'a compté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de sa lyre, disciples d'Apollon, nos maîtres pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins, comme ils se confiaient de leurs pensées et leurs soins, Aracan commence ainsi. « Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avez déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrais-je ? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée ou bien charge à la cour ? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter. Mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus, contentez tout le monde. Écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là. Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier à ces mots connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils. Il suit et d'aventure passe trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux de garçons s'écria tant qu'il put. « Oh là, oh, descendez que l'on ne vous le dise, jeune homme, qui menait laquais à barbe grise. À barbe grise, c'était à vous de suivre, au vieillard de monter. »« Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. » Quand trois filles passent, l'une dit « C'est grande honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce Nico comme un évêque assis fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est ni le meunier plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. » Après maint colibé coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une troisième troupe trouve encore qu'à gloser. L'un dit « Ces gens sont fous, le baudet n'en peut plus. Il mourra sous leur coup. Et quoi, charger ainsi cette pauvre bourrique? N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. » Parbleu, dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois, si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit: est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et Meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête. Et la chanson le dit: beau trio de Baudet. Le meunier repartit. Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement. Les gens en parleront, n'en doutez nullement. Les membres et l'estomac. Je devais par la royauté avoir commencé mon ouvrage à l'avoir d'un certain côté. Messer Gaster en est l'image. S'il a quelques besoins, tout le monde s'en ressent. De travailler pour lui, les membres se lassant, chacun d'eux résolut de vivre en gentilhomme, sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster. Il faudrait, disait-il, sans nous qu'il vécût l'air. D'air. Nous suons, nous peinons, comme bêtes de somme, et pour qui? Pour lui seul, nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. Chaumont, c'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous dirent à Gaster qu'il en alla chercher. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt, les pauvres gens tombèrent en langueur. Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit, les forces se perdirent. Par ce moyen, n'émut à un vire que celui qu'il croyait oisif et paresseux, à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement, tout tire d'elle l'aliment. Elle fait subsister l'artisan de ses peines, enrichit le marchand, gage le magistrat, maintient le laboureur, donne paix aux soldats, distribue en 100 lieux ses grâces souveraines, entretient seul tout l'État. Ménénius le sut bien dire. La commune s'allait séparer du Sénat. Les mécontents disaient qu'ils avaient tout l'empire, le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité, au lieu que tout le mal était de leur côté, les tributs, les impôts, les fatigues de guerre. Le peuple hors des murs était déjà posté. La plupart s'en allaient chercher une autre terre. Quand Ménénius leur fit voir qu'ils étaient aux membres semblables et par cet apologue, un signe entre les fables, les ramena dans leur devoir.